merveilleux. Bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
La rétrospective de l'actualité de la semaine, on a encore beaucoup parlé cette semaine de la loi El Khomri réformant le code du travail, la ministre ayant fait son petit effet puisqu'elle a été hospitalisée dans la journée de mardi. Un malaise a-t-on annoncé, un accident domestique a-t-on précisé, rien à voir avec le stress qu'elle subit pour défendre en première ligne ce projet de loi très décrié, tellement d'ailleurs que ça y est, les syndicats sont dans la rue, c'est annoncé pour la fin mars, il y aura une grande journée de manifestation, les étudiants aussi sont dans la rue. Et quand les étudiants commencent à s'en mêler, ça sent mauvais pour tout projet de loi quel qu'il soit. Le Premier ministre Manuel Valls voit bien qu'il est sur des braises. Alors il temporise, il annule un voyage à l'étranger, il reporte de 15 jours l'examen de la loi pour être à son chevet, pour être présent et pour négocier. Il a ouvert la possibilité aux syndicats de bien vouloir reparler du contenu de cette loi. Il faut que les jeunes comprennent que ce projet est bon pour eux, argumente le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Ils sont en effet les premières victimes de l'hyper-précarité, surenchérit Myriam El Khomri. Tandis que Nicolas Sarkozy n'y croit pas, la montagne accouchera comme toujours d'une souris, dit-il. Les migrants reviennent aussi dans l'actualité cette semaine, puisque l'hiver se terminant, les migrants reprennent leur route vers l'Europe. Plus de 131 000 sont arrivés en Europe par la Méditerranée depuis début janvier. C'est en 2 mois plus que l'ensemble des 6 premiers mois de l'an dernier. On s'attend donc à une vague encore plus importante cette année. Ne venez pas en Europe, ne croyez pas les passeurs, tout ça ne servira à rien, a lancé le président du Conseil européen Donald Tusk. C'est ce qu'il a lancé en tout cas aux migrants économiques, pas sûr qu'ils soient entendus. La France va envoyer un bateau en mer Égée pour contrôler les flux de migrants entre la Grèce et la Turquie. La Grande-Bretagne a annoncé 20 millions d'euros supplémentaires pour aider la France à sécuriser la frontière à Calais. Et enfin la Croatie, elle, a décidé de changer sa loi pour envoyer l'armée aux frontières du pays pour contenir, si nécessaire, l'afflux de migrants. Mais il est peu probable que ça change véritablement grand-chose. Autre info tombée cette semaine, c'est l'anneau de Jeanne d'Arc qui est de retour en France. Il n'avait pas quitté l'Angleterre depuis 1431. Cet anneau avait été volé à Jeanne d'Arc par l'évêque Cochon lors de son procès à Rouen. Il l'avait ensuite vendu aux Anglais. Depuis, c'était resté entre les mains de la perfide Albion jusqu'à ce qu'on apprenne que cet anneau sur lequel il y a 3 croix, il est en laiton, c'est inscrit aussi Jésus-Maria, et bien jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il soit mis en vente aux enchères. Et là, sidérant, aucun musée français ne s'est précipité pour acheter cet anneau ayant appartenu à Jeanne d'Arc, une héroïne française, une héroïne nationale, célébrée tant par la gauche que par la droite historiquement. Et c'est donc une initiative privée, celle du Puy du Fou en Vendée, qui a réussi à mobiliser 375 000 euros en quelques jours pour remporter la vente aux enchères. Cet anneau de la sainte historique protectrice de la France sera exposé au public dans un lieu dédié au Puy du Fou. Voilà pour cette rétrospective. Passez une bonne fin de week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
La météo, avant de retrouver le sport, eh bien sachez qu'aujourd'hui le temps sera mi-figue, mi-raisin, beaucoup de pluie, beaucoup de nuages et dans l'après-midi quelques belles éclaircies. Les températures actuellement 2 à 3 degrés, on atteindra dans l'après-midi les 5 à 6 degrés. Belle journée à l'écoute de RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette émission Tribune Foot, la première du mois de mars. On a un peu perdu notre gorge, mais enfin, rassurez-vous, ça va s'arranger. Ravi en tout cas d'être avec une grosse partie de l'équipe. Hein. Il manque mon Boris, qui est parti rechercher sa petite famille à La Rochelle, et notre ami Bifi, qui est donc alité ce matin. Alors, j'accueille à mes côtés d'abord le Globetrotter du football. C'est notre ami Olivier. Salut Olivier, ça va ?
Bonjour tout le monde, ça va ?
Oui, Globetrotter, il était donc au Classico Marseille-Paris-Saint-Germain. Il était aussi à Marseille-Saint-Etienne et puis à Bilbao, donc récemment, Olivier, pour suivre l'élimination des Marseillais.
Exact, ouais. Bon, ça, quelques petits regrets sur... Bon, tout s'est joué sur le match aller. C'est vrai que si on avait pu tirer un match nul, au moins un match nul au match aller, le match retour aurait peut-être été différent. Mais bon, on n'a pas à rougir du match retour. Mais bon, c'est un petit peu rageant de quitter la scène européenne.
On reviendra naturellement hein, sur ce chapitre des Coupes d'Europe. On accueille aussi celui qui est là tous les mois avec nous. Hein, il n'arrête pas de suivre la reine du muguet portugaise partout. C'est notre ami José Vega. Ça va, José ?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, ça va. Et surtout, surtout, on attend avec impatience le Chelsea-PSG de mercredi.
Oui, quel match. C'est du 50-50.
Je vois que Juliette a le sourire et elle est confiante. Et moi aussi, je pense qu'on devrait passer ce tour.
Bon, il revient d'un beau week-end en amoureux de Venise. C'est notre ami Francis. Ça va, Francis?
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
La forme?
La forme, ça va bien.
Bon, ça se présente bien cette semaine foot Paris Saint-Germain-Chelsea. Quel match?
Ben, on l'espère, mais enfin, les deux résultats de Paris Saint-Germain ces derniers temps sont pas très prometteurs. Enfin,
bon, ouais, Chelsea, ce qui était moyen hier aussi. Hein.
Comment?
Chelsea, c'était moyen hier aussi.
Ouais,
hein. Voilà. On verra bien. Il remplace notre ami Boris ce dimanche. C'est Arnaud. Salut Arnaud. Il était avec nous la semaine dernière. Salut Arnaud.
Bonjour, salut à tous. Et moi, contrairement de mon côté à mes collègues, je sens le match de mercredi pas bien du tout. Donc je pense que tout le monde est trop confiant.
Bon, ben on en reparlera. Ça va être un des thèmes de cette émission. Et puis, ben, ils sont là, ils sont sereins, confiants. C'est Edouard et Juliette. Bonjour Edouard, Rouvel.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Confiant oui, pour mercredi?
Ça va, on attend, on n'est pas encore.
Très bien, Juliette.
Bien, bonjour, et puis, ben oui, bien sûr, mercredi, et ben ce sera la victoire. J'ai déjà donné le score à José, et puis bon, on verra. Mais on va y arriver.
Très bien, donc je l'ai dit, on va naturellement parler des Coupes d'Europe, on parlera du championnat, on parlera de la Coupe de France, on aura un petit coucou à Robert Pires, hein, qui est le dernier des Mohicans qui a mis à terme donc à sa carrière, c'est la fin d'une époque, et puis on va commencer avec eh bien l'élection du nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, 45 ans, c'est l'ancien secrétaire général de la trompe de Michel Platini. Il a déjà pris une première grosse décision, ça va être l'apport de la vidéo, donc messieurs, c'est important.
Oui, disons que Platini, il était contre. Bon, faut pas non plus que la vidéo vienne interférer dans le jeu. Bon, l'erreur est humaine, les arbitres, il faut qu'ils soient là quand même. Mais pour les décisions un peu litigieuses, je pense que ça sera un grand pas en avant. Ça se fait au rugby, donc pourquoi pas le foot. Mais faut pas non plus qu'il y ait des arrêts toutes les 3 minutes. Ça serait pas bien, ça couperait le jeu.
Faudra y aller progressivement.
C'est ça le problème.
Sur certaines décisions, effectivement, ça peut être bénéfique.
Il faut jamais oublier que c'est l'arbitre qui appellera la vidéo. Donc, s'il estime qu'il faut l'appeler 10 fois, 15 fois, il le fera.
À mon avis, il y aura beaucoup de. Enfin, si on coupe le match pour un oui, pour un non, c'est vrai que ça. Il y aura beaucoup de temps additionnel à la fin. Faudra pas arrêter le match.
Mais je pense que les joueurs feront un peu plus attention. Par contre,
aussi, hein, ouais,
parce qu'ils seront à ce moment-là montrés du doigt et là ils feront plus attention et il y aura moins de fautes.
Oui, je pense que les simulations, il y en aura beaucoup moins et de ce côté-là, je pense que ça sera pas mal.
Ouais. Alors Gianni Infantino, je l'ai dit, hein, il sort de l'école de Platini, hein, il était son secrétaire général. C'est une bonne chose. C'était au départ pas forcément l'homme de la situation et puis les circonstances ont fait qu'il se retrouve à 45 ans président de la FIFA.
Oh, je pense qu'il a quand même un certain vécu, il a de l'expérience, il est dans les rouages de l'UEFA. Je pense quand même que c'est pas un novice. Hein. Je pense qu'il va apporter quelques nouveautés. Là, il a commencé. Je pense qu'il va y arriver.
Il va être obligé de se démarquer, de toute façon, de la mandature précédente, hein, de Sepp Blatter. Il va être obligé parce que bon, il y a cette image de la FIFA, le système. On sait que bon, de toute façon, il bougera pas beaucoup, mais il va être quand même obligé d'essayer de se démarquer un peu, d'innover un peu.
Obligé de se démarquer, mais ce sera des touches un peu ponctuelles. Oui, parce que la FIFA, c'est un mammouth. Hein. Je vois toutes les contraintes qui sont appliquées pour le championnat d'Europe, ne serait-ce que pour ça. Hein, c'est impressionnant. Moi, je vois les commerçants qui sont dans les enceintes près des stades doivent mettre des bâches. Enfin, c'est affolant. Les contraintes financières éditées par la FIFA, enfin par l'UEFA, dans quelle espèce pour le championnat d'Europe qui va se tenir en France au mois de juin.
Et sur le système de la FIFA, il y a eu un excellent reportage de notre ami Nicolas Jay dans Stade 2, où là on démontre vraiment tout le système FIFA qui existe depuis non pas Sepp Blatter, mais même Joe Avalanche. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Hein.
Bah, la FIFA, c'est une banque, hein, très sincèrement, quand on voit un peu les bâtiments, le siège qu'ils ont.
C'est pire que la politique. Hein.
C'est pire que la politique, oui. Mais il doit y avoir des luttes d'influence extraordinaires là-dedans. On espère que ça va s'améliorer.
Pour que cette Blatter s'accroche comme ça au pouvoir, c'est quand même qu'il y a des intérêts derrière. Hein, sinon,
ils sont tous pareils.
Ouais. Enfin bon, on espère que ça au moins des choses évolueront. Oui. C'est une bonne chose donc pour vous, la vidéo?
Ben, c'est une bonne chose, mais il faut définir les limites. Voilà, c'est un peu comme au rugby. Bon, on met la vidéo lorsqu'il y a un litige sur une action ou sur un essai. Il faut qu'au foot, ça soit pareil. Voilà. Faut pas mettre la vidéo au milieu du terrain, parce que bon, ça, effectivement, ça va hacher les matchs et ça n'a pas grand intérêt. C'est sur les actions litigieuses de but qu'il faudra la vidéo. Mais bon, ça, après, c'est à la FIFA de définir avec du jeu.
Arnaud, la vidéo, c'est bien ou c'est pas bien? Bon, nous, on est d'une génération, on n'a pas connu la vidéo, loin de là. Hein, on admettait l'erreur humaine d'arbitre. Est-ce que c'est une bonne chose?
Je pense que ça peut être un apport totalement utile. Après, est-ce que ça perdra pas de. Le football ne perdra pas de sa beauté de ne plus voir nos amis Olas et Labrune de crier à chaque fin de match pour des erreurs d'arbitrage?
Oui, ça c'est l'éternel problème, hein. Le côté humain, bah oui, la réaction humaine, c'est l'éternel problème de
ça
la vidéo.
Ça va les calmer.
C'est pour ça que certains étaient contre la vidéo, puis voulaient, comme Platini par exemple, que le jeu reste jeu et que l'erreur humaine, même erreur soit-elle, soit admise.
C'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'excuses, ni les présidents, ni qui que ce soit, il n'y aura plus d'excuses à dire oui, on a perdu à cause de l'arbitre, un truc comme ça. Bon, l'erreur est humaine, mais la vidéo apportera le petit plus qui enlèvera, disons, la triche, on va dire.
Ce qu'il faut voir également, c'est dans quelle mesure la vidéo sera mise. Est-ce que ça sera uniquement pour les pénalties, pour les fautes, pour les hors-jeux? Et c'est vrai que si, comme ça a été dit précédemment, si ça arrive toutes les deux minutes, le football n'aura plus aucune saveur.
Bon, bah on verra en tout cas.
Je pense que dans un premier temps, ils vont appuyer sur les points les plus importants. Ils vont pas mettre ça tout le long du match. Ils vont vraiment appuyer sur les fautes, sur les petits litiges. La balle, bon, on a déjà la vidéo qui dit si la balle est rentrée ou pas. Et sur des fautes de simulation ou des hors-jeux, bon.
Des pénalties pas sifflées.
Voilà, ou des triches, des gars qui se jettent sans avoir été touchés.
Tout à fait.
Voilà, ça sera un bien.
En tout cas, ça sera opérationnel en 2016-2017 et puis vraiment en 2017 après. 2017-2018. Ouais. Bah, je crois que ça va être partout. Hein.
Partout, même les championnats.
Ah, bah, je pense que ça va être les championnats. Hein. Ouais. Bon, sauf chez les amateurs, naturellement. Hein.
Non, parce qu'en France, faut avouer que bon, quand on regarde ne serait-ce que les matchs de Ligue 2, bon, on s'aperçoit que la caméra, les retransmissions, c'est une caméra pour la ligne. Donc, ça sera un peu difficile de mettre les vidéos sur ce genre de terrain.
Voilà. Je ne sais pas.
Ah, d'accord. Ils l'ont pas mis.
On verra. C'est la Ligue 1, parce qu'il faut y avoir moyen technique, tout
pas. Oui, non, mais bien sûr, c'est ça le problème.
On peut se contenter d'avoir une caméra, ça le fait.
C'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Enfin, on aura largement l'occasion d'en reparler. Bon, fin de carrière pour Robert Pires, mais c'est le dernier des Mohicans qui est parti, c'est la fin d'une époque, d'une génération.
Disons qu'il jouait dans une équipe à Goa, en Inde, qu'on connaissait pas.
Bon, il était en semi-retraite.
Voilà. Et puis, comme c'est un portugais d'origine, et Goa, c'est une ancienne colonie, donc, tu vois, il était en famille.
Oui, mais bon, ça y est, c'est fini, ils sont tous retraités, nos bleus de 98.
Oui, arrivé à un moment, il faut savoir raccrocher. Bon, je pense que là, il déroulait un petit peu sa carrière, mais c'était un très grand joueur, on peut lui rendre hommage, ainsi qu'à toute l'équipe de 98, et donc c'est le dernier des Mohicans, et il s'en tire bien, c'est bien.
Olivier, c'est une page qui s'est tournée, hein, avec Pires qui s'en va.
Non, il a fait une belle carrière.
Oui, mais faut pas oublier qu'il a donné des passes décisives, hein, notamment pour l'Euro. C'est celui qui amène le but.
On se souviendra toujours du but en or de Trezeguet contre les Italiens. C'est vrai qu'il
belle carrière,
il a musclé
Pires,
son jeu.
Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Bon, avant d'entrer sur le terrain, Juliette, je voulais qu'on parle un peu d'Aurier, parce qu'on en a beaucoup parlé. Quelle est la réaction de la fan du Paris Saint-Germain par rapport à Aurier?
Alors, Aurier...
C'est un imbécile, il est bête, il est idiot.
C'est un simple d'esprit, dirais. Voilà, c'est un simple d'esprit. Ouais. Quand il a fait ça, bon, j'étais furax. Franchement, je l'aurais pendu par les oreilles, s'il fallait. Et puis après, je me suis dit, celui qui l'a piégé, celui qui l'a mis dans cette situation, est encore plus nul que
lui. Oui, mais ça, on le savait. Bon, ça, on le sait.
Bon, ben oui, mais bon, quand on fait partie d'un club où vous avez un standing, vous êtes sur un piédestal, vous êtes quelqu'un de reconnu, vous essayez, je ne dis pas de ne pas fréquenter les gens avec qui on a joué ensemble au billes à l'école, mais quelque part, on essaye un petit peu de s'écarter et d'avoir l'œil sur tout ce que ces gens-là feraient avec vous. Et dans ces cas-là, je lui en veux beaucoup. Maintenant, j'avais prévu justement qu'il ait un mois supplémentaire de mise à pied, qu'il soit avec la CFA, Tout s'est fait dans l'ordre. Et aussi, je me demande, de, quand il va revenir, le laisser 2-3 matchs sur le banc. Ne pas le faire jouer
même
tout de suite.
Même en CFA, il ne joue pas pour l'instant. Hein.
Il ne joue pas pour l'instant. Ah, bon, non, je ne sais pas. Non, je ne suis pas allé voir les matchs.
Il jouera que le week-end prochain. Hein.
Oui. Disons. Mais il fallait bien le punir d'une certaine façon. Problème, mais c'est un simple d'esprit. Oui, mais il fera encore des bêtises.
C'est ça qui est grave. C'est qu'il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte du privilège qu'il a.
C'est ça qui est grave. Il l'a fait avec l'arbitre. Et avec l'arbitre,
disons
c'était
déjà
trop.
De jeunesse, mais
plus que voilà. Ça.
C'est une erreur de jeunesse. Non, non. Il est jeune, mais bon, c'est vrai qu'avec les moyens de communication modernes, et quand on est un homme public ou une femme publique, il faut se tenir à carreau. On sait très bien que si on fait une bêtise, elle va être propagée sur Internet, sur un tas d'applications, et il faut faire très attention quand on est connu.
Non, non, non. Moi, je dis pas une erreur de jeunesse. Le gars, il est professionnel, il a joué à Toulouse. C'est pas à Paris seulement qu'il a joué.
Oui, mais il faut avec les moyens de communication modernes, on sait qu'on n'est pas à l'abri d'un dérapage, donc il faut essayer de se tenir au maximum à carreau.
Pas ce genre de dérapage, non.
Le problème, c'est que ça remonte pas l'image de marque qu'ont beaucoup de Français des footballeurs.
Oui, c'est ça le problème aussi. Ouais. C'est ça le problème aussi, ouais.
Et je suis désolée, je dirais, et même des Noirs, parce que bon, quelque part, ils font des conneries sur ça.
C'est pas un blanc ou un noir, ça aurait été la même chose.
Oui,
je pense,
mais enfin, je ne pense pas quelque part se faire remarquer comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je suis moi-même une Noire. Je dirais pas une Noire parce que la couleur je n'aime pas. Je dirais, excusez-moi, mais je vous dirais une Négresse parce que c'est le type. C'est comme ça. Mais faire ce genre de choses, moi, je n'accepte pas.
Quand il faut des conneries, que ce soit un noir, un blanc,
oui,
c'est,
mais non,
c'est la même
moi,
chose.
Je ne l'accepte pas.
Oui,
voilà.
Oui, c'est
je
vrai.
Je n'accepte pas.
On peut.
Oui. Olivier.
Non, bah, c'est. En plus, c'est... Il est récidiviste, parce qu'il a déjà eu des petits soucis l'année dernière.
Il doit avoir des.
Comme disait Juliette, effectivement, dans son entourage, à mon avis, il faudrait qu'il
fasse le tri.
Qu'il zappe certaines personnes, à mon avis, qui l'engrainent là-dedans. Et...
Ouais. Il a des cafards qui traînent autour de lui.
C'est dommage pour lui, parce que c'est un excellent joueur, mais effectivement, je pense qu'il est mal entouré. Et bon, j'ai bien peur pour lui qu'il soit un petit peu grillé du PSG, parce qu'effectivement, la punition, c'est la CFA.
Mais
quand il va intégrer le groupe professionnel, c'est pas du tout sûr. Alors, que Blanc le fasse jouer.
J'espère qu'il n'y aura pas de club français pour l'acheter. Parce que là, je sais, il y en a déjà quelques-uns qui sont. Il faut qu'ils partent à l'étranger.
Il va être sifflé.
S'il y a une chose qui peut défendre sa cause, c'est le fait que Serge Aurier soit un joueur totalement indispensable. Aujourd'hui, on voit à droite, Marquinhos n'est pas à son poste.
On est utile et jamais indispensable.
À un niveau totalement inadmissible, je pense que Serge Aurier est indispensable et aujourd'hui est un des 5 meilleurs arrière-droits en Europe. Donc je vois pas pourquoi Paris irait prendre le risque de le vendre et le donner à un concurrent potentiel.
Mais bon, pas le premier à faire des bêtises. Hein. On a l'affaire Benzema, on a l'affaire Ribéry. Ouais. C'est vrai que ça nuit un peu à l'image du football et des footballeurs.
L'affaire Benzema et l'autre... Ça, c'est beaucoup autre chose. Là, c'est contre ton entraîneur.
C'est pour faire le rapprochement et dire que à ce niveau-là, ils font des bêtises les uns comme les autres.
Oui, mais c'est contre un entraîneur que tu fais ça.
Oui, et puis un entraîneur c'est pas qui t'a fait chose, venir
qui
à Paris
allé te chercher.
Pour te faire.
Il faut pas exagérer.
Le problème, c'est qu'ils...
Voilà. Moi, je n'apprécie pas.
Hein, ils n'ont pas... L'énormité de la bêtise qu'ils ont dit, ils n'en ont même pas conscience. C'est ça qui est fou.
Ce qu'on peut espérer, Philippe, c'est que les générations futures, les jeunes qui sont issus du centre de formation, reçoivent une certaine éducation.
Il y en a quand même.
Et qu'on peut espérer qu'ils ont un peu plus les pieds sur terre.
Varane, qui vient du même centre de formation que lui, c'est différent quand même.
Oui, tout à fait. Mais
c'est une autre mentalité.
C'est une autre éducation aussi, certainement.
On voit qu'il est plus posé. Il est mieux, quoi. On n'entend pas de bêtises dans les radios ou les journaux. C'est le gars qui tient sa place et qui se tient à carreau.
Oui,
quoi. C'est bien.
Il y a l'éducation à la base.
Voilà, il y a l'éducation.
C'est très
important. Et l'environnement, comme dit Francis.
Si on peut le mettre en parallèle avec un exemple, en parlant d'éducation, c'est peut-être Adrien Rabiot qui, comme ça, peut paraître comme un modèle d'éducation. Et on voit que ce garçon.
Oui, c'est un enfant gâté, quoi.
Est sur la même position que Serge Aurier.
C'est
pour moi.
C'est un enfant gâté.
C'est un enfant gâté. De baf, et puis ça y est, il se remet en place. Non. Mais même Aurier, vous lui donnerez de baf, ça ferait pas d'effet. Alors bon, c'est pas la peine.
Bon, allez. Donc la pub, la musique, et ensuite on va s'intéresser donc aux choses du terrain. On y va.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les Salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les Salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h, un buffet dînatoire à volonté. Boissons et soirées nightclub incluses à 45 euros. Le dimanche à partir de 11h, un brunch avec après-midi dansant et animation pour enfants à 39 euros, enfants 15 euros. Et un thé dansant de 15h à 18h avec son buffet gourmand à 15 euros. Les Salons Léopold, la vallée à Cernay-la-Ville. Réservation et information au 01 34 85 20 02 et sur www.salonleopold.fr.
Nature et Bébati Service, entreprise située à Vieille Église, interviennent dans toute l'Île-de-France et proposent différents services pour tous vos travaux d'intérieur et d'extérieur. Nature Service, spécialiste de vos espaces verts avec ses équipes de paysagistes et élagueurs diplômés. Bébati Service, entreprise tout corps d'État répondra à tous vos travaux de bâtiment. 50% de déduction d'impôts possible sur de nombreuses prestations. Un conseil, un devis gratuit. Contactez Nature et Bébati Service au 01 30 50 06 96 ou sur le www.natureservice.fr.
La Cime Verte et la Gage à Vieille Église vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage. Ferme de la Quaqueterie à Vieille Église, proche de Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
RVE. je t'aime.
RVE 103.7.
Cette émission, vous pourrez donc la réécouter sur le podcast dans le courant de la semaine. Et puis, j'ai deux petites annonces à vous faire. D'abord, vous dire que le Variété Club de France ne viendra pas sur Saint-Arnoux en Yvelines le dimanche de Pâques, donc le 27 mars. Il y a eu quelques reports de matchs qui ont donc obligé Jacques Vendroux à refondre le calendrier. Et comme Vendroux veut donner la priorité cette année à d'autres départements que les Yvelines, Saint-Arnoux a été sacrifié, comme l'a été d'ailleurs donc Rambouillet au mois d'octobre dernier. Donc pas de match du Variété Club de France sur Saint-Arnoux le dimanche 27 mars, mais Jacques Vendroux nous l'a confirmé, le Variété reviendra dans notre région à partir de la saison 2016-2017. Et puis demain, naturellement, c'est dans notre région la première étape du Paris-Nice, Condé-sur-Vègre, Vendôme, une étape longue de 198 km, le départ à 11h45, et vous pourrez naturellement entreapercevoir les coureurs dans notre région entre 12h09 et 12h54. Ils passeront à la Boissière-École, à Hermeray, à Rézeux, à Gazeran, à Greffier, La Unière, Sonchamp et Ablis, avant de prendre la direction de l'Eure-et-Loir. Arrivée prévue aux alentours de 16h24, 16h30 à Vendôme. Jean-Marc sera donc sur place là-bas, donc au départ à Condé-sur-Vègre, et nous ramènera quelques petites interviews qu'on vous passera d'ailleurs dans l'émission de la semaine prochaine. Et puis aujourd'hui, c'est le prologue naturellement de 6 km 100 dans les rues de Conflans-Sainte-Honorine. C'est le grand lancement de la saison cycliste. Ça part de Condé-sur-Vègre. C'est pas très loin de chez vous, Francis.
Oui, c'est juste à côté. Oui. Ouais. Ils ont déjà mis quelques bicyclettes
qu'ils
ont peint, accrochées. Ouais, ouais. C'est sympa.
C'est bien.
On verra demain.
C'est
bien. Ça sera peut-être un peu plus difficile à aller au boulot. Ouais.
La course. Ah non, mais ils partent à
7h. Ouais,
ouais. Ouais. Donc la course au soleil, ça lance véritablement la saison. Hein.
Oui, ouais. C'est bien. Mais c'est très bien pour la région, parce que ça fait quelques années que
Paris-Nice,
le départ se déroule dans les Yvelines.
Très bien, allez, on va parler maintenant du championnat, 29e journée. Bon, hier, c'était pas une journée très très prolifique en but. Bon, Paris Saint-Germain, toujours très largement en tête. Juliette, il y a eu cette défaite la semaine dernière à Lyon. J'ai coutume de dire que ça devait finir par arriver.
Oui, mais
oui,
j'ai pas trouvé non plus que Paris ait joué comme il fallait. Bon, ils étaient
finir
un
vaincu,
petit peu
ça aurait été quand même.
Et puis peut-être aussi ont-ils pensé Lyon sur le marchepied, ce serait mieux pour la France et pour l'équipe. Pour
non, je pense que Lyon, France, on avait plus envie jouer ce soir-là, c'est tout.
Pour pouvoir jouer l'année prochaine,
de toute façon, gagner,
la Ligue,
être invaincu 38 matchs, ça aurait été un pari fou quand même.
Sûr. Non, mais là, bon, match, bon, c'est Lyon qui a bénéficié, c'est très bien. Et puis, bon, là maintenant, hier, on a fait match nul. C'est pareil, ils ont joué tranquille, ils se sont pas trop fatigués, comme dit Laurent Blanc, il fallait pas de blessés, surtout pas de blessés.
Disons qu'avec l'avance qu'ils ont, bon, même, je dis pas qu'ils font exprès de perdre, mais ils peuvent se permettre de se relâcher un peu penser peut-être à d'autres compétitions.
Inconsciemment
ou à d'autres matchs, mais.
Ils se sont relâchés un peu, ils ont joué petit bras.
Je pense que si le grand Paris qu'on a l'habitude de voir appuie vraiment sur l'accélérateur, je pense que Lyon, ils font pas long feu.
Alors, 0-0
très bien, ça va. 0-0.
C'était pas un grand match.
C'était pas un grand match non plus, mais bon, ça va.
Ouais.
Mercredi, ce sera un grand match.
Ah, ça sera un grand match.
Voilà.
Ça, je peux vous le garantir, ça sera un énorme match.
50-50.
Oui, 50-50, effectivement.
60-40.
Ils sont bien. Hein.
Ouais. Alors, Monaco deuxième, bon, semble donc s'orienter vers sa deuxième place.
C'est Monaco qui devrait faire attention, par contre.
Par contre, pour la troisième place, tout reste très ouvert encore. Hein.
Oui, disons qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent devenir troisième, notamment Lyon s'il gagne ce soir. Et il y a encore, disons, Marseille aussi. Bon, il n'est pas en ce moment.
Saint-Étienne, Nice. Ouais.
Par contre, Troyes, je pense qu'ils sont condamnés.
Alors, Troyes est condamné, Toulouse est condamné aussi, semble condamné.
Je pense,
par contre, là aussi, après, c'est un peu la bouteille. Alors,
il y a Bordeaux qui produisent vraiment pas de jeu. Ouais. Je sais pas, mais bon, Sagnol, je sais pas pourquoi
Sagnol
il est
va partir.
En place.
Sagnol va partir. Ouais, en fin de saison, il partira.
Oui, voilà. Je pense, parce que là, c'est vraiment catastrophique. En plus, le stade, il se vide. Il y a personne. Il y a plus personne dans les tribunes. Donc, ça devient catastrophique. Il est temps qu'ils réagissent à Bordeaux.
Alors, je dirais que Toulouse a encore une petite chance parce que, avant. Il y a quoi? Il y a Évian et Reims. Oui. Bon, je pense que Toulouse peut remonter. Et puis une petite pensée pour monsieur.
Évian et Évian
sont en Ligue 2. Ils sont. Pas Évian. Reims et puis.
Le nouveau coach.
C'est Ajaccio.
À noter que le nouveau coach de Toulouse a eu un petit malaise hier.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Une petite pensée pour lui. Parce que je pense qu'il a dû avoir un choc assez émotionnel.
Moi, je pense que Toulouse est condamné, malheureusement. Ça fait quelques années que.
Je suis pas si sûr.
Pour revenir sur la course à l'Europe, à la Ligue des Champions et également au 4e, 5e place, je pense que c'est impossible quand on voit que c'est impossible de pronostiquer quand on voit qu'il y a 8 points entre le 3e Nice et le 15e Marseille. Marseille qui est 15e avec 36 points et Nice avec 44 points. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire telle ou telle équipe finira 3e, 4e.
Deux victoires, et puis Marseille revient dans le haut.
D'autant plus que si Paris fait encore, Juliette, le quadruplé comme l'année dernière, ça va libérer les 5e et 6e places en Europa League. Donc il y a peut-être des places à aller chercher. Il y a peut-être des places à aller chercher.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de constance dans les résultats des équipes qui sont derrière Paris Saint-Germain et Monaco. Monaco est bien revenu parce qu'à un moment, ils étaient.
Je pense qu'ils ont la deuxième place assurée.
La deuxième place, c'est clair.
Ça ne joue pas très bien. Derrière, mais je pense qu'ils ont un peu de marge. Ils devraient terminer. Par contre, la troisième place, effectivement,
on n'entend plus parler de Makelele à Monaco. Je ne sais pas s'il s'entend mieux avec Jardim. On n'a pas d'écho, donc.
Il se fait petit, à mon avis.
Je pense.
Un petit perdu.
Non, il est là, je l'ai vu.
Oui, il est là, mais je veux dire, ils ne font pas de bruit.
Mais il fait partie de la direction, on ne peut pas le mettre avec Jardim.
Jardim, pendant un temps, était annoncé à Porto.
Oui, à Porto.
Donc peut-être qu'il attend la place.
Oui, je pense que. Parce que Porto, en ce moment, ce n'est pas les meilleurs. Au Portugal, disons que c'est plutôt Sporting et Benfica cette année.
Le Benfica, justement.
Oui.
Alors je voulais quand même signaler qu'en Ligue 2, on va en parler un peu, parce que le reste là, on va peut-être remonter en Ligue 1, c'est fou. Et par contre, le Paris FC et puis Créteil vont retrouver la Nationale, mais le reste là, en Ligue 1.
Créteil, malgré
pour les anciens comme nous,
je pense qu'il ne pourra plus rien faire.
Non mais je crois que c'est joué aussi, hein. Créteil, ouais. Paris FC, c'est joué aussi. Hein.
Ouais, Ligue 2, c'est un peu joué aussi, effectivement. Bon, voilà, soit les équipes qui monteront, bon, c'est Nancy, Dijon.
Oui, c'est sûr. La troisième place, c'est pas encore.
C'est pas évident. Il y a le Havre.
La Star est bien partie, mais bon.
Ouais, mais il y a le Havre qui va pas mal aussi. Je suis un peu déçu, moi, c'est des Messins. Ils sont bien descendus.
Ouais.
Il y a même Clermont, éventuellement, qui est encore dans le.
Oui, Clermont, ouais.
Alors, à noter qu'ils sont entraînés par une fille, hein.
Clermont. Ils sont pas loin. À chaque fois, Clermont, mais à chaque fois, mais ils arrivent pas.
Mais bon, dans le bas du tableau, ça stagne aussi. C'est un ordre qui est établi depuis un certain nombre de journées de championnat et je pense qu'il évoluera pas.
Arnaud, ce championnat, il vous plaît ?
En Ligue 2 ou en Ligue 1 ?
En Ligue 1. Parce que Ligue 2, on voit pas beaucoup les matchs, mais bon, Ligue 1.
C'est dommage, Philippe. Tous les médias snobent la Ligue 2.
Ah bah ouais, on en voit tellement des matchs en semaine, on peut pas tout voir.
Terrible, mais il y a quelques matchs qui m'intéressent.
Mais ils sont tous le vendredi soir.
Moi, il y a 15 jours, il y avait Lens Valenciennes. Lundi soir, c'était.
Ah, mais c'était le derby du Nord, là.
Derby du Nord, dans un stade plein en Ligue 2, faut se lever de bonne heure pour en trouver.
C'est sûr.
Sincèrement, la Ligue 1, ça fait mal au cœur de voir le championnat comme ça. Il y a une ou deux équipes qui jouent au foot. Derrière, le niveau est très faible. Les arbitres sont inadmissibles. Les entraîneurs, c'est tout sur la défense. De voir un niveau de jeu aussi faible, ça fait très mal. On a juste à regarder hier, il y a eu 4 buts en 5 matchs seulement,
oui,
je crois.
Oui, mais par contre, sur les autres journées, on a marqué des buts quand même. On a des moyennes à 23, 24, 27, 28 buts quand même, hein, paradoxalement.
Faut avouer que c'est rare.
Non, ça fait quelques journées, on a à peu près une moyenne de 23, 24, 25 buts. Alors, c'est pas parce qu'on marque des buts qu'on joue forcément bien au foot, hein. On peut avoir des défenses.
Il faut également comparer que nos voisins, on a juste à regarder en Allemagne où on a 4, 5 buts à chaque match environ, alors qu'en France, c'est tout sur la défense. Pour moi, le football, t'attaques, t'essayes de marquer, c'est l'équipe qui prendra le moins de buts possible.
C'est vrai que par rapport à l'Angleterre, où le jeu est plus ouvert et porté vers l'attaque, c'est vrai que le championnat de France est un peu moyen de ce côté-là.
Ouais, je pense qu'on a un championnat moyen et qui vaut pas le prix.
Vous voyez les équipes espagnoles, les équipes anglaises qui jouent vers l'avant. Vous voyez les équipes françaises qui jouent la défense et qui jouent le béton. Et c'est pour ça qu'il y a moins de spectacles et il y a moins de jeux produits.
Olivier qui était au Classico là. Par contre, qui a été un beau Classico, hein, victoire 2-1 des Parisiens. Qui était aussi à Marseille-Saint-Étienne, un partout. C'est pour ça que Bibi, il n'est pas là aujourd'hui.
Il a dû subir une semaine assez agitée la semaine dernière.
Ouais.
Non, bah Marseille, c'est fidèle à eux-mêmes. Quoi. C'est, un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Quoi.
C'est un peu à l'image du championnat.
Voilà, il y a pas de régularité. C'est, ils vont faire un match à peu près correct à Bilbao. Mmh. On pense qu'il y a un semblant de quelque chose. Puis derrière, ils replongent. Quoi.
Disons que Mitchell, il a un petit peu moyen.
Oui, aussi,
et puis, il a des envies de Real. Parti, mais je ne pense pas que ce soit un entraîneur pour le Real.
Je pense qu'il parle, il essaye un petit peu de placer ses billes pour l'année prochaine, parce que je pense qu'il est sûr de rien. Je pense que dans les coulisses, je pense qu'ils ont, ils ont vu sur quelqu'un d'autre, à mon avis. Je pense qu'il va faire un an, il va partir. Maintenant, au niveau du front de jeu, c'est assez pauvre, ça serait assez triste. Michy, bon, il se démène devant, il fait ce qu'il peut, mais bon, il est pas spécialement bien servi au niveau des ballons. Donc, non, ce qui manque à Marseille, c'est de la régularité, c'est de faire une série de 2-3 victoires consécutives. Il n'y a jamais eu 3 matchs de suite, 3 victoires. Le championnat est tellement serré que même là, je regarde, ils jouent cet après-midi contre Toulouse. Si par bonheur, ils arrivaient à gagner.
Une réaction de Toulouse.
Et ils ont un match en retard mercredi à Ajaccio. Oui. Supposons qu'ils prennent 2 victoires. Mm-hmm. Ils sont 15e et j'ai vu, ils se retrouvent 6e. Quoi. Donc
ouais, ça
peut aller très vite.
Exactement ça.
Mais tant qu'ils n'auront pas une série de 3 victoires consécutives, ils seront là, dans le ventre mou. Quoi.
Bon, alors, on va parler de la Coupe de France. On s'était quitté le 7 février dernier, après les 16e de finale de Coupe de France. Hein. Alors, on vous avait dit qu'à l'issue de ces 8e, il pouvait rester 6 clubs de Ligue 1, un club de Ligue 2 et une CFA2. On ne s'était pas trompé, puisque on a notamment vu la victoire de Sochaux devant Monaco 2-1. Nantes qui avait gagné à Bordeaux 4-3 après prolongation. Saint-Etienne qui était allé gagner à 3 aussi 2-1 après prolongation. Paris qui avait battu Lyon 3-0 assez facilement. Et puis Olivier Marseille qui avait gagné à Trélissac 2-0. Hein.
Ouais, exact. Ouais.
Hein,
bon, c'est
donc, ça nous a donné des quarts de finale où on a vu Sochaux battre Nantes 3-2. Mmh. Lorient écrasé Ajaccio 3-0. Victoire de Paris, pas trop difficile quand même, hein, devant Saint-Etienne 3-1. Et puis Marseille qui bat Granville. Pas aussi facile que ça, 1-0.
Pas aussi facile. C'était, entre guillemets, ils ont chèrement vendu leur peau, Granville. Mmh. Félicitations à eux, parce qu'ils ont fait un sacré
coup.
Et non, ils n'ont pas à rougir de cette défaite. Bon, Marseille, entre guillemets, au métier, ils ont assuré, on va dire, l'essentiel, même si ce n'était pas encore un grand match. Mais non, ce qu'on retiendra, c'est la qualif et rien d'autre. Quoi.
Alors, Lorient, Paris Saint-Germain et Sochaux-Marseille, ce seront les demi-finales proposées les 19 et 20 avril. Est-ce qu'on peut entrevoir une finale Paris Saint-Germain-Marseille? Attention quand même sur un match à Sochaux. Sochaux-Marseille, ça sera peut-être plus équilibré que prévu.
Sochaux n'est pas bien en championnat de Ligue 2.
Mais en Coupe de France, ils font bon parcours.
Non, mais bon, faut pas oublier que Sochaux a quand même éliminé Bastia, Monaco et Nantes.
Faire un peu comme aussi l'année dernière qui était en finale de Coupe de France, comme ça, hein, en faisant pas une grande saison. Et en arrivant quand même en finale de Coupe.
Il faut se méfier, je pense que le match n'est pas gagné d'avance. Effectivement, si la logique est respectée, on s'achemine vers un PSGOM, mais. Marseille, c'est pas encore gagné à Sochaux, quoi. C'est.
Ouais. Je dirais que ce serait bien PSGOM. Oui. On a eu des beaux matchs cette année, PSGOM. Non, ça a été des beaux matchs cette année.
Oui, donc, ce serait un beau match. Mais bon, pareil, je crains Sochaux, hein. Sochaux. Ils sont avant-dernier, mais quelque part. Oui.
Je pense quand même que ça sera un PSG Marseille.
Ouais. La Coupe, c'est pas comme à l'étranger, match aller-retour, c'est sur un match.
Arnaud?
Moi, d'abord, je vais passer sur un sujet hors sport. Je pense que. Un Paris Saint-Germain-Marseille au Stade de France à 15 jours de l'Euro, niveau sécurité, je pense que ça peut être un très bon test pour les événements.
Il n'y a plus de gros débordements maintenant.
Et pour l'Euro, est quand même, faut faire attention avec ce qui s'est passé en novembre et d'avoir une grande compétition aujourd'hui, il faut faire très attention. Et pour ce qui est du sport, on espère vraiment une finale Paris Saint-Germain-Marseille.
Je pense quand même que à ce niveau-là, les autorités vont mettre en place ce qu'il faut au niveau sécuritaire. On sait ce qui s'est passé, donc on est dans l'expectative et les autorités vont faire le maximum.
Ouais. Espérons que s'il y a un PSGOM au Stade de France, il n'y aura pas des interdictions de déplacement, que ce soit parisien ou marseillais une fois de plus. On sait que un match de foot, ça se fait également avec des spectateurs. Je pense que ça pourrait être beau dans un grand stade de voir de nouveau, pourquoi pas, le Paris Saint-Germain chanter.
Je ne pense pas qu'il y aura une interdiction, parce que là, quand même, c'est une finale, et puis c'est le Stade de France.
Je crois que c'est réglementé.
Les spectateurs sont filtrés.
C'est réglementé en plus.
J'étais à Bercy dernièrement, et je peux vous dire qu'avant d'arriver aux portes de Bercy, vous en faites des tours et des détours,
et puis vous êtes surveillé
par caméra. Il y a tout un tas de trucs.
Vos sacs sont fouillés.
vous êtes fouillé de A à Z. Je pense que ça, vous mettez un certain temps pour arriver aux portes du stade.
Sauf que l'année dernière, pour la finale PSG Bastia, on avait réussi à avoir une bonne centaine d'ultras rentrer dans le stade de France pour venir plaider leur cause. Donc pourquoi pas?
Mais depuis les événements de novembre, les autorités sont plus attentives.
Mais là, je dirais qu'il y avait peut-être des stewards connivence, hein, avec eux aussi. C'est ça le problème. C'est pas.
Non, ça va bien.
Non, faut rester confiant. Moi, je suis très confiant.
Ouais. Demandez aux supporters aussi de se tenir pour faire un bon match, de bien chanter, de bien faire tout ce qu'ils veulent, mais de se tenir correctement.
Si ça sauve, on aura une finale Sochaux-Lorient. Hein.
Ça m'étonnerait quand même. Ceux qui veulent gagner un peu d'argent, ils peuvent.
Attention, ça peut être ça.
Ce qui risque d'être bien, Philippe, c'est la finale de la Ligue, PSG-Lille, il est un peu la bête noire du PSG, hein. C'est facile quand le,
PSG... Ils en ont pris 6 l'année dernière, quand même.
Je pense que le PSG de maintenant...
J'y crois, moi.
Plus le cas. C'est le style qui parle. Bon, alors tiens, les Coupes d'Europe, on y arrive, semaine décisive donc pour Paris Saint-Germain, mais avant, je voudrais quand même qu'on revienne sur le fiasco donc de nos clubs. En Europa League, hein, pas une équipe française qui dépasse une nouvelle fois le stade des 16e. Saint-Etienne, qui avait gagné le match aller contre Bâle 3-2, a été battu 2-1 par Bâle. Et puis victoire de Marseille, de Bilbao à Marseille 1-0. Match nul des Marseillais 1-1. Les deux clubs français qui s'arrêtent. Qu'est-ce qui fait que les clubs français ne vont jamais très loin dans cette compétition, messieurs?
Ben, on peut se poser la question, mais on se la pose toutes les années, Philippe. C'est le manque de motivation, principalement.
Saint-Etienne qui gagne 3-2, bon, c'est sûr que c'était pas embarqué. Ils sont battus 2-1 à Bâle. Bon,
ils peuvent se qualifier.
Est-ce que c'est pas là qu'on voit le niveau du championnat français, championnat français?
Parce que l'Europa League, c'est quand même la Coupe d'Europe des 5e, 6e, faut pas l'oublier quand même. Hein. Bon.
Justement, est-ce qu'on voit pas la faiblesse du jeu en France? Parce qu'on voit toujours PSG, Marseille, Saint-Etienne, etc. Mais en deuxième partie.
Jamais, au-delà, on va au-delà d'un 16e, d'un 8e, d'un 8e. Il y a que Lyon, il y a 2 ans. Hein, qui est allé en quart de finale.
Quand vous voyez des pays comme le Portugal où le championnat est assez moyen, et ils sont toujours dans les compétitions européennes, et quand ils y sont, ils se donnent à fond. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici. Les équipes françaises, ils font tout pour y aller, et puis une fois qu'elles y sont...
Le problème est que cette année, on a vraiment eu l'impression de voir Saint-Etienne se donner à fond, Marseille un petit peu moins, mais l'élimination de Saint-Etienne, pour moi, ça relève d'une faute professionnelle égalisée dans les arrêts de jeu pour en reprendre une minute plus tard. Je trouve que c'est inadmissible.
Malheureusement, ça arrive trop souvent pour les équipes françaises en Coupe d'Europe. On n'oublie pas non plus que Bordeaux et Monaco s'étaient fait sortir en phase de poule, ce qui paraît quand même aussi incroyable, surtout pour une équipe comme Monaco qui était reversée de Ligue des Champions.
Mais disons, il faut beaucoup de réussite. Regardez le but que,
que
Marseille a pris au match aller. Presque au milieu du terrain, ils ont pris le but. Le gars a shooté, puis c'est entré. Il faut de la réussite aussi. Hein.
Il va le faire 10 fois, il va le mettre 9 fois.
On le dit, le niveau, la deuxième partie du championnat de France, c'est très moyen.
Non, mais c'est vrai, je pense.
On n'est pas au niveau des Espagnols, des Anglais, des Allemands. On n'y est pas. Il y a une division d'écart, on va dire.
Non, mais ce qui est malheureux, c'est qu'en Europa League, on n'est même pas au niveau des Portugais, même pas au niveau des Suisses, même pas au niveau des Ukrainiens.
Oui, c'est ça.
C'est beaucoup plus grave.
C'est ça qui est dommage.
Ça, c'est beaucoup plus grave. C'est la Coupe d'Europe des 4e, 5e.
Président de club devrait se poser la question.
C'est
pourquoi on réussit pas à aller au-delà des 8e ou des 15e.
Alors, si encore on se faisait sortir, allez, en quart, en demi, mais contre tous les ans, on va jamais au-delà d'un 8e de finale, sauf Lyon il y a 2 ans. Voilà. Battu en quart de finale exceptionnellement.
Quelle est la différence Europa League et la Ligue des Champions?
La seule différence, c'est que la Ligue des Champions, c'est les premiers deuxièmes.
C'est la crème.
Ceux qui vont descendre en Europa League, ils étaient en Ligue des Champions?
Oui, mais ils vont pas très loin. On a eu des exemples passé où Lille, par exemple, avait été reversé en Ligue des Champions.
Mais les équipes de France,
pareil pour Monaco, cette année, qui passe pas le tour préliminaire, qui se fait sortir.
Oui, mais les équipes de France, ils entendent nous parler, c'est parce qu'ils ont sorti 3e ou 2e, je sais pas, ou ils ont gagné une coupe. Disons mais ceux qui sont en première, en Ligue des Champions, qui redescendent.
Les meilleurs joueurs français, à noter, ils jouent tous à l'étranger, quoi. Oui, on voit des Pogba, des Benzema, tout ça joue à l'étranger, ça joue pas en France. Et il n'y a pas de, à part les stars du PSG, il n'y a pas des grandes vedettes dans le championnat de France.
Et on revient au règlement, à savoir que les Français qui sont à l'étranger respectent ce qu'on leur dit, ils font attention à tout, tandis qu'en France, tout aller leur fait, dire la même chose, ils ne vont pas respecter.
Ouais, et on a la preuve de... Ils se refont de santé, on voit, voilà. On voit comme Payet, par exemple, qui est en pleine bourre, alors qu'à Marseille, il était complètement à côté de ses pompes, quoi.
Donc il y a peut-être une autre culture du football qu'on n'a pas pour le moment, je ne sais pas.
Allez, on en vient à ce match phare, 50-50, Chelsea-Paris Saint-Germain.
60-40.
Alors, donc on verra ça le mois prochain, Juliette, on en reparlera. Bon, c'est le socle français qui reste, Paris. On élimine quand même, on imagine mal quand même Paris s'arrêter là quand même, en 8e contre Chelsea.
Oui, mais Paris ne va pas s'arrêter là.
Hein,
ça a été un bon match. Sur le slogan de Paris, c'est rêvons plus grand.
Oui, vous avez, c'est vrai.
Bon, alors, on va rêver plus grand et on va gagner ce match.
Bon, ça va être un match qui va se jouer à l'Agnac, au mental. Ça avait été le cas lors des deux premières confrontations. Inconsciemment, Paris avait été
Paris mieux. A un but d'avance. Ouais. Je pense que, pense qu'ils vont quand même marquer un but.
Oui, mais attention, ils vont.
À Chelsea.
Ils ont marqué un but à Paris.
Oui, mais je pense que Paris peut en marquer
Paris va gagner 3-1.
Mais c'est 55,
je vous donne le
3-1, peut-être pas quand même.
Je pense qu'il faut, il faut toucher du bois pour que Verratti et Matuidi soient de retour. Parce qu'honnêtement, le milieu de terrain, surtout Verratti, c'est extrêmement faible.
Ils sont de retour.
Surtout Verratti.
Une chose, tout à l'heure, on a parlé de la série d'invincibilité du PSG. Certes, ils ont perdu. Aujourd'hui, c'est... C'est pas une catastrophe, mais si Paris vient à se faire éliminer par Chelsea, pour moi la saison serait totalement ratée. Donc au niveau des
non, il y a d'autres coups. Enfin, attendez,
on est champion et qu'on fait un quoi donc c'est raté. Mais
pour les Qataris, si.
Il faut pas
pour
les Qataris. Mais non, les Qataris vont se contenter des autres coupes et puis ils remettront ça l'année prochaine.
C'est ça qu'ils veulent. Hein.
Pour être franc, je pense que si le PSG se fait éliminer, Laurent Blanc ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine.
Ouais, c'est nous qui pensons ça, parce que bon, on dit Qataris, ils sont venus pour ça, ils sont venus pour gagner, ils sont venus pour... ils n'auront pas la coupe là.
C'est sûr que maintenant, il faut passer un palier quand même.
Ils ont recruté justement pour pouvoir le faire.
Mais ils n'ont pas donné de période.
Ouais. Ils n'ont pas donné de limite.
Ils peuvent dire 4 ans, 5 ans, 6 ans.
Avant de gagner une Coupe d'Europe, ça se fait pas sur un an ou deux. C'est sur 5, 6 ans.
Il faut franchir un palier quand même.
Faut franchir un palier. Faut regarder
Chelsea. Chelsea à la base est le même type d'équipe que le PSG et ils ont mis 12 ans à gagner la Ligue des Champions après la
Brunovic. C'est pour ça. C'est
on mettra pas 12 ans.
Et au terme d'un match,
espérons qu'on n'attendra pas 2023. Oui.
Non.
Ça fait tout de même 2-3 ans que ça dure. En 4 ans au PSG.
Ça fait que 4 ans.
Ça fait 5 ans que les Qataris sont là déjà. Oui.
On peut aussi poser la question, est-ce que les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est pas aussi le vrai niveau du foot français? On peut aussi se poser la question. Marseille l'a été en 2012, on passe plus les quarts de finale de Ligue des Champions aussi. Est-ce que là aussi, c'est pas le véritable niveau des clubs français actuellement?
Non, peut-être...
Regardons Monaco l'année dernière.
Oui, quart de finale. Finale. Donc pareil, est-ce que c'est pas le véritable niveau?
Je pense que Paris a quand même le niveau de la Champions League. Honnêtement, je pense.
Je pense que Paris a le niveau pour être dans le dernier carré.
Sur le papier, elle a le niveau, sans problème. Elle l'a.
Après, il y a aussi toujours cette part.
L'incertitude du sport.
Tous les joueurs du Paris Saint-Germain ont déjà joué à l'étranger, des Coupes d'Europe. C'est pas des novices quand même. Donc, ils ont le niveau. Ils ont le niveau du Real, ils ont le niveau du Bayern et tout ça, je pense quand même.
Mais bon, les autres équipes aussi, ceux qui arrivent à ce niveau-là, c'est pareil.
C'est comme on disait, c'est la crème de la crème. Quand vous arrivez en finale de la Champions League, c'est pas par hasard que vous êtes là.
Donc Arnaud, ce match, on peut le voir comment? Pas très optimiste donc.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est trop confiant. Chelsea était dans la même position l'année dernière. Ils avaient eu un résultat favorable au match aller. Au final, Paris était venu créer l'exploit alors que tout le monde les voyait sortir. Honnêtement, aujourd'hui, tout le monde... J'ai encore entendu des phrases hier au Parc des Princes. Qui on va jouer en quart de finale? Avant de penser aux quart de finale, je pense qu'il faut passer de Chelsea.
C'est sûr. Francis?
Moi, je suis relativement optimiste parce que bon, l'équipe a bien été renforcée. C'est un dernier mercato. Bon, Di Maria, il amène quelque chose. Puis Verratti, il a bien progressé. Donc,
en tout cas, on a vu quand même que Chelsea était mieux que ce qu'on voulait dire au match aller. C'est deux équipes qui ont fait deux bons matchs. Un match aller, ça peut être 3-1 comme ça peut faire 2-2.
Il y a une progression un peu linéaire de performances chez Chelsea depuis que le nouvel entraîneur est arrivé. Donc, faut se méfier. Faut pas partir à la fleur au fusil en disant on va les taper. Il a apporté un plus.
Ouais.
Je pense, comme dit Edouard, je pense que c'est du 50-50. Je serais pas aussi confiant que Juliette à 60-40. Disons que ça peut jouer d'un côté comme de l'autre.
Ça va jouer un but près.
Hein.
Bah, de toute façon,
il n'y aura pas un écart de 2-3 buts.
Quand on reprend les deux premières éditions, ça s'est joué comme ça.
Ça se jouera un peu d'écart.
L'an dernier, Paris se qualifie sans gagner.
Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre.
Et puis, il y a deux ans, ça se joue à.
Et on a des avantages, c'est que la spectateur anglais est aussi forte que celle du Parc, voire plus. Hein. Donc, ils auront un 12e homme.
Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. On a vu à Stamford Bridge il y a deux ans et l'année dernière qu'on n'entendait que les Parisiens dans le stade. Les supporters anglais, je suis d'accord, mais à Chelsea, ce n'est pas ça.
Ils sont inquiets, les supporters à Chelsea.
Certainement, parce que quand vous tombez contre le PSG, c'est quand même quelque chose.
Alors après, il y a une chose qu'il faut. Sur laquelle il faut être clair. Dans le jeu, Paris ne devra pas se mettre derrière, défendre et attendre que ça vienne. On a vu l'année dernière qu'il y avait, il y a deux ans, qu'il y avait deux buts d'écart. En jouant derrière, ils ont été rejoints. Donc je pense qu'il faudra jouer au football, garder la possession dans le milieu de terrain. Et après, oui, utiliser les contres au maximum sur les ailes. Mais,
C'est là que le rôle des entraîneurs est important. Et c'est là que. Un gars comme Verratti peut être effectivement très important. Hein, porter le ballon, ça va être la difficulté. Hein. On a un but
Verratti.
Géré.
Et Javier Pastore qui revient très bien.
Ouais. Olivier.
Non, ça va être serré, ça va être un bon match.
Ah oui. Ça va jouer à pas grand chose
à mon avis.
Ouais, bah comme lors des deux premiers.
Je pense que si Paris tient la première demi-heure, voire même marque un but, je pense que entre guillemets c'est plié quoi. Je pense que Chelsea va prendre un coup. Tout va dépendre de la première demi-heure à mon avis.
Bon, on en reparlera le mois prochain, on sera tous derrière cette équipe du Paris Saint-Germain. La deuxième pause musicale et de pub, et ensuite on continue à parler des Coupes d'Europe parce qu'il y a d'autres matchs aussi importants qui arrivent. On y va.
Le restaurant Amaris à Rambouillet a le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi midi et du lundi au jeudi soir pour vous proposer une nouvelle carte avec ses entrées, son buffet d'hors d'œuvre à volonté, ses plats et un large choix de desserts chauds ou froids. Le restaurant Amaris, c'est une cuisine maison composée de produits frais. Découvrez également le menu Amaris à 25€ et le menu Express à 15,50€, servi uniquement le midi et hors jour férié. Alors, pour un repas professionnel ou un moment de convivialité, entre amis ou en famille, une seule adresse. Restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Artisan peintre décorateur Sébastien Mohar, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohar, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohar, 34 rue de la Mairie, Orsemont.
International Auto, 284 RN10 à Coignères, achète comptant et immédiatement votre véhicule de moins de 10 ans avec ou sans contrôle technique. Intéressé pour vendre rapidement votre voiture ? Une seule adresse. International Auto, 284 RN10 à Coignères. Téléphone 0607 65 34 40. 0607 65 34 40.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Et maintenant, retour des hits sur RVE. RVE.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. arrêté de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Dites à ces trous du cul, je continue de chanter. Et puis tous ces chasseurs de primes, paparazzi en embuscade, qui me dépriment et qui n'impriment que des ragots, que des salades. Toutes ces rumeurs sur ma santé, on va pas en faire une affaire. Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe derrière chaque buisson, à tous ces photographes qui vous prennent pour des cons. Ceux-là m'ont enterré un peu prématuré. Dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Je ne vous ai jamais oublié. Et pour ceux à qui j'ai manqué, vous les fidèles, je reviens vous dire merci. Vous m'avez manqué, vous aussi. Trop content de vous retrouver. Je veux continuer, nom de nom, continuer à écrire et à chanter. Chanter pour tous les sauvageons, toujours vivants. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le couillon qui voudra m'enterrer. Depuis quelques années, je me suis éloigné. Je vis près des lavandes, sous les oliviers. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ces trous du cul peuvent continuer de baver. Moi sur mon petit chemin, je continue de chanter.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Alors donc, Barcelone, Real, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Munich et Wolfsburg, ils sont pratiquement qualifiés, on peut dire qu'ils ont pris une sérieuse option pour les quarts de finale. C'est donc 50-50 Paris Saint-Germain Chelsea et puis Benfica Saint-Pétersbourg, ça sera aussi assez équilibré. Vous êtes d'accord?
Oui, je pense que Benfica, je pense qu'ils vont quand même passer. C'est l'équipe d'Edouard, il aime bien Benfica et je pense qu'ils vont quand même passer ce tour.
En tout cas, il y aura déjà trois clubs espagnols pratiquement qualifiés, un anglais et deux Allemands. Donc vous voyez déjà.
Puis pour les Allemands, attention au Bayern Munich, ils ont fait 2-2 à l'extérieur et la Juventus ne se dit jamais vaincue. Donc on a vu les dernières qui sont arrivées en finale. Pourquoi pas?
On verra. Ça sera la glorieuse incertitude du sport.
Ils ont fait 0-0.
Ouais, mais bon, ça c'est des matchs.
PSG aussi.
Ouais. Mais oui, mais justement, tous ces clubs-là ont fait du 0-0 hier. Ouais.
Disons qu'ils pensaient déjà à leur match.
Oui, comme
c'est
nous.
C'est ouais, ce qui est dommage pour le PSG, c'est qu'ils n'aient pas marqué au moins un but, parce que faire match nul, pourquoi pas, mais au moins marquer un but. Comme 0-0 contre Montpellier, c'est tout de même pas flatteur. Hein.
Très bien, merci mesdames, merci messieurs. Rendez-vous donc au début du mois d'avril, hein, le 3 avril, on aura encore tout plein de choses à vous dire. Et donc, et notamment, on reviendra sur ces Coupes d'Europe, hein, aussi sur le championnat. Et puis, on sera aussi concerné par l'équipe de France qui aura effectué sa rentrée. Et puis, c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Hein,
voilà,
donc, on voulait y penser. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour Tribune Sport. Merci à JP d'avoir été ce matin aux manettes.